France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Les élections législatives sont donc officiellement lancées. Aujourd'hui, figurez-vous, campagne officielle. 6293 candidats qui ont désormais 12 jours pour tenter de convaincre les électeurs que vous êtes de les compter parmi les 577 hommes et femmes qui siégeront donc à l'Assemblée nationale. Et là, je ne suis pas sûre d'avoir totalement capté votre attention et encore moins votre intérêt. Vous m'envoyez, désolé, c'est pas bon pour l'émission interactive qui est la nôtre, mais reconnaissons-le ensemble, si la campagne présidentielle a été une campagne téfale, selon le mot de Brice Teinturier, désormais resté célèbre, avec rien qui accroche, je me risquerais à dire que la campagne pour les législatives est une campagne Perrier, c'est-à-dire gazeuse, qui à ce jour n'a pas accouché de grands thèmes porteurs. Et surtout, pour l'instant, et vous me direz si vous voyez les choses différemment, avec un mois de délai depuis les présidentielles, elle ne bénéficie pas d'effet de souffle, comme après une présidentielle rapprochée, et rien dans les grands projets macroniens ne permet d'accrocher même une opposition, parce que rien n'a été détaillé, même la réforme des retraites remise à plus tard. Alors, bien sûr, vous voyez des candidats tractés sur les marchés, c'est le minimum, la campagne, elle existe. Celui qui a le plus remué ciel et terre pour donner de l'enjeu, c'est la NUP de Jean-Luc Mélenchon, en remettant d'ailleurs sur le tapis l'idée d'un vote utile, mais le reste est assez atone. Et la question posée dans le JDD tout récemment, est-ce que vous êtes certain d'aller voter aux législatives ? Eh bien, à cette question, la réponse est non, évidemment, à 52%. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, Irène, c'est vous. Bonsoir et bienvenue, Irène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bah, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. En effet, je ressens que cette campagne a beaucoup de mal à décoller. Comme dit le journaliste, elle ne s'anime pas. On ne voit pas beaucoup de monde sur les marchés en train de distribuer des tracts. Alors, il y a le fait qu'elle est très loin, je pense, de la présidentielle, et en même temps, le deuxième tour sera 15 jours des grandes vacances. Alors, est-ce que ça explique aussi que eux-mêmes n'y croient pas ? Quand je dis eux-mêmes, c'est-à-dire les candidats, et Dieu sait pourtant s'ils sont nombreux dans la circonscription très mixte. Alors, c'est quand même inquiétant parce que l'abstention va encore battre des records, et pour être candidat au deuxième tour, il faut faire un fort pourcentage d'inscrits. Voilà, et puis peut-être c'est lié à la fatigue des électeurs ou au désabusement, et je trouve que c'est pas très bon pour allez, on va utiliser grand mot, la démocratie, parce que les gens, soit ils tracent, ils ne vous calculent pas, et voilà. Et aussi accrocher à ce qu'on leur dit, comme si, voilà.
Eh ben écoutez, en voilà une entrée en matière déprimante, Irène, merci beaucoup. Merci vraiment, parce que ça correspond un petit peu effectivement à ce que tout le monde peut-être sent. Je vais vous présenter ceux qui sont autour de la table ce soir. Françoise Fresseau, c'est là, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Monde. Sophie Dravinel également, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro. Et Yael Gauze, chef du service politique de France Inter.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à
Je vais vous poser la question à tous les trois. Tiens, Sophie Dravinel, elle a raison, notre amie Irène. Vous la qualifiez comment, cette campagne de législative ? Est-ce qu'on, enfin sincèrement, est-ce qu'on s'ennuie, quoi ?
On s'ennuie. Disons qu'elle est un peu comparable à la campagne présidentielle quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une campagne téfale. Mais pour la NUP ou la NUPES que je suis plus précisément, vous parliez de campagne Perrier très justement. Moi, j'irais qu'elle est quand même un peu pétillante là-bas, à la NUP, à gauche. C'est à peu près le seul endroit qui pétille. Je ne sais pas si Irène suit un camp en particulier. Mais en l'occurrence, peut-être que la seule dynamique est un petit peu là, même si on ne sait pas très bien à quoi ça va aboutir. Mais globalement, c'est vrai que ce soit les marcheurs, que ce soit les républicains, même chez Marine Le Pen, on ne sent pas de dynamique particulière. Et à gauche, ils veulent surtout sauver les meubles.
Alors, c'est vrai, Françoise Fresseau, ce que dit Sophie Dravinel, c'est ce qu'on disait effectivement aussi en introduction, c'est la NUP qui est partie bille en tête. Mais pour qu'une campagne fonctionne, et c'était le cas aussi pendant les présidentielles, il faut s'accrocher à des choses, il faut pouvoir poser soit un accord, soit une opposition. Et en fait, on parle de quoi réellement ?
Alors, c'est vrai qu'il faut, pour une campagne, il faut des adversaires, il faut de la confrontation. Et on sent qu'effectivement, la NUP est partie à la confrontation assez vite, avec une stratégie de regroupement de la gauche, parce que effectivement, pour être au deuxième tour, mieux vaut être unis au premier. Donc, et Jean-Luc Mélenchon a aussi inventé un enjeu en disant « je vais me nommer Premier ministre si j'arrive à remporter les législatives ». Donc, il a nationaliser la campagne. Et en face, on a un président de la République qui fait tout pour qu'il n'y ait pas de campagne. pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a un risque. Au fond, on l'a vu en 2007 quand Nicolas Sarkozy avait remporté la présidentielle et que pendant la campagne législative est apparue la fameuse TVA sociale, c'est-à-dire la menace d'augmenter de 4 à 5 points la TVA. Jean-Louis Borloo l'avait évoqué. François Fillon a essayé d'atténuer la chose et Nicolas Sarkozy est persuadé que l'évocation de cette mesure lui a fait perdre à peu près 80 députés. Donc on sent que du côté d'Emmanuel Macron, tout est fait pour ne pas prêter flanc à la moindre polémique. Et d'une certaine façon, il a raison, parce que le climat est extrêmement éruptif. Ce que vous voyez, par exemple, sur ce qui s'est passé au Stade de France samedi, vous voyez à quel point la polémique a démarré rapidement. Les uns pour dire il y a eu des faux tickets, les autres pour dire c'est entre guillemets la racaille de banlieue, que vous avez intérêt à ne pas mettre sur la table des sujets qui fâchent, et notamment la réforme des retraites que Emmanuel Macron met soigneusement sous le boisseau, parce que Jean-Luc Mélenchon rêve de faire un référendum pour ou contre la réforme à 65 ans. Donc on a une sorte d'atmosphère nationale sans polémique globale, et donc ça fait que la campagne, elle démarre pas.
Mais alors, Yael Gauz, si effectivement, parce que Françoise a raison, on se met à parler de ce qui s'est passé au Stade de France comme si c'était quelque chose de politique. On sort à peine de l'aventure d'Amien Abad, dont on ne sait toujours pas comment elle va se terminer. Donc on se dit finalement qu'on s'accroche à ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ce n'est pas de la politique, en fait. C'est effectivement l'histoire d'Abad, c'est l'histoire du Stade de France. On s'accroche à la polémique qu'on peut, en fait.
Pour qu'il y ait une campagne Tefal, il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose à mettre à frire dans la poêle. Et là, pour l'instant, on le cherche, pour filer la métaphore de cette cuisine politique. Effectivement, il y a aujourd'hui une volonté d'étirer au maximum le calendrier, mais c'est poussé jusqu'à son paroxysme. On rappelle, sept semaines, le chiffre 7, le délai entre la fin de la présidentielle et le premier tour 12 juin de législative. Et donc c'est le moins on en dit, mieux on se porte. Je ne sais pas à la fin si cette stratégie elle est tenable, parce que le moindre incident est surmultiplié après en effet médiatique. Pour que Gérald Darmanin aille faire un 20h ce soir pour dire nous avons éviter des morts devant le Stade de France, c'est qu'il y avait le feu au lac. Parce que, initialement, dans le week-end, il n'était pas question pour Gérald Darmanin de monter au créneau comme il va le faire ce soir, comme il le fait depuis la mi-journée avec cette conférence de presse conjointe avec la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Cortesa. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'il y a aujourd'hui une fébrilité telle que le moindre incendie, il faut l'éteindre. Je pense à Bruno Le Maire aussi aujourd'hui. Il y avait la notion qu'il faudrait rattraper le manque à gagner pour l'État avec le bouclier tarifaire sur EDF. 4% simplement de hausse cette année, et peut-être payer l'année prochaine, tout de suite, hop, on éteint l'incendie. Non, il y aura bien un budget rectificatif qui permettra aux Français de ne pas débourser ce que Bercy a amené comme protection du pouvoir d'achat des Français. Donc tout est éruptif parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu posé. Ça va peut-être bouger un petit peu cette semaine. Je vous le dis juste parce que Emmanuel Macron repart sur le terrain dès demain, Cherbourg, au CHU de Cherbourg, pour parler des urgences, de la crise à l'hôpital. Et jeudi, l'éducation à Marseille, avec la mise en avant de son nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Ce sont deux thèmes, santé et éducation,
extrêmement
très importants
que les gens attendent, mais sachant que les deux dernières sorties d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas, ont été extrêmement chahutées. Donc il y a aussi un énorme risque là-dessus, Sophie Dravinel.
Oui, alors à Cherbourg, peut-être moins qu'à Marseille, on verra effectivement comment ça va se passer. Sachant que sur les hôpitaux, c'est un vrai sujet de tension très très fort, et notamment, évidemment, à gauche. Et pour revenir sur les sujets qu'il peut y avoir, et c'est là où effectivement on va voir si ça prend face à Emmanuel Macron, ce face-à-face Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, un peu artificiel, mais qui de fait existe dans cette campagne. Et c'est intéressant parce que on voit un sujet politique. Vous parliez tout à l'heure de Damien Abad, avant Jérôme Peyrat, évidemment, et tous ces sujets-là. Mais c'est celui des régimes politiques, régime parlementaire pour Jean-Luc Mélenchon, présidentiel pour Emmanuel Macron. Et là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui peut être amené. Je ne sais pas si les Français sont suffisamment intéressés à cette question-là pour être allés au point d'aller voter pour cette élection. Mais là où Jean-Luc Mélenchon a eu une bonne intuition, c'est de dire si vous élisez mes députés, vous pourrez me porter au gouvernement. Mmh. Et là, il y a, je trouve quelque chose d'intéressant politiquement parlant.
Là où je trouve que c'est assez intéressant aussi, Françoise Fressot, c'est qu'il ne sait, il ne s'est rien passé, à mon sens, vous allez me dire si je me trompe, après les très longues semaines qui ont précédé l'annonce du gouvernement. Et au fond, est-ce que ça a fait pchit, cette annonce de gouvernement? On était censé, alors il devait y avoir une espèce de nouvelle génération macroniste, on n'a pas vu vraiment de nouvelle génération, et Elisabeth Borne était finalement le premier choix de départ. Donc, est-ce qu'il y a eu un pchit post-gouvernement?
Alors, je pense qu'il y a, il faut se mettre dans l'esprit qu'on est dans le deuxième mandat, que ça n'a rien à voir avec le premier. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai le souvenir encore de 1988 où Mitterrand est réélu, il a fait la France pour tous, voilà. Et on s'aperçoit très vite que les ennuis commencent, qu'il prend un premier ministre pour le tester, c'est Michel Rocard, qu'il essaye de mettre à la tête du parti Laurent Fabius et il n'y arrive pas. Et tout semble lui échapper. Donc, les deuxièmes mandats, c'est toujours très compliqué. Je trouve qu'il y a eu un travail souterrain d'Emmanuel Macron assez efficace. Il a commencé par unifier la majorité. Vous vous souvenez, on se disait, Édouard Philippe va partir tout seul dans son coin. Là, il fait ensemble. Et il essaye, au fond, de bétonner son quinquennat pour qu'au moins les deux premières années soient utiles et qu'il garde la main. Deuxièmement, je pense qu'il est face à une situation extrêmement compliquée où, au fond, quand vous regardez le résultat de la présidentielle, il est élu par des retraités, des CSP+, et il est cerné par les extrêmes. Il est cerné par l'extrême droite et il est cerné par Jean-Luc Mélenchon qui a pris la tête de la gauche. Et donc, il faut absolument... Il hésite, au fond, entre dire « je vais faire les réformes pour lesquelles j'ai été élu » et en même temps « je peux pas braquer les Français, donc je cherche une méthode de concertation et d'association ». Et on a l'impression que là, il est en train de rôder, qu'il n'a pas encore choisi et que, en tout cas, pendant la campagne législative, il fera tout pour éviter d'allumer le feu. Parce que, en plus, l'autre chose qui est très frappante, c'est qu'il fait tantôt de la gauche, tantôt de la droite. Si, par exemple, il est trop précis sur la retraite à 65 ans pour donner des gages à la droite, la gauche va lui dire « non, non, c'est pas ça qu'on veut ». Inversement, donc, il en dit le moins possible. Et pour lui, le vrai enjeu, ça va être, après les législatives, de dérouler tout ce qu'il est en train de préparer. Donc, je dirais pas que c'est inutile, mais c'est assez souterrain. Et ça peut engendrer de la frustration, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il est absent.
Cerné par les extrêmes, comme disait Françoise, Yael Gauss, par, effectivement, la NUP, on l'a bien vu. En revanche, le Rassemblement National a l'air assez, là aussi, en demi-teinte.
Oui.
Ou en souterrain.
Mais parce que Marine Le Pen, elle-même, a choisi quasiment de, on va dire, de renoncer à cette campagne. Elle donne l'impression, en tout cas, de ne pas vouloir en faire l'alpha et l'oméga de cette période post-présidentielle, puisqu'elle dit, elle vise au maximum 60 députés. Alors, ce qui serait déjà historique, hein, parce que le record, c'est 35-36 en 1986, député FN à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Donc, elle vise un groupe parlementaire pour peser. Mais elle dit, moi, je vous mens pas comme Jean-Luc Mélenchon. On n'a aucune chance de gagner les législatives. L'état de nos forces ne le permet pas. Ce qu'elle veut, c'est asseoir son autorité sur une extrême droite dépourvue, comment dire, débarrassée d'Éric Zemmour. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'alliance d'ailleurs, parce que ce sont des histoires aussi d'indépendance de parti, des histoires financières liées aux gains qui seront engrangés par ces législatives. Mais pour revenir à Emmanuel Macron et à cette période étrange, un peu souterraine dont parlait Françoise, je voulais revenir là-dessus deux secondes, il y a un paradoxe, c'est que les 100 jours, les fameux 100 jours, on parle toujours d'un état de grâce post-présidentiel en 2017. Emmanuel Macron n'y croyait pas initialement aux 100 jours. Or, en 2017, il fonctionne comme tous les présidents, il fait les 100 jours avec toute une série de réformes lancées, tambour battant. On se filme à l'américaine en train de signer des ordonnances, je ne sais pas si vous vous souvenez, ordonnances travail notamment, pour montrer que le gouvernement est pleinement mobilisé. Et là, les 100 jours d'Emmanuel Macron, il n'y en a pas du tout là. Là, c'est 100 jours complètement étirés et le plus dur arrivant en juillet, a priori. Là, on y verra plus clair en juillet. Mais ce qui est frappant, c'est que pour savoir ce qu'Emmanuel Macron veut faire, on est obligé de se replonger presque dans des archives, on fait un travail d'archéologue politique pour revenir au mois d'avril à ses propos d'entre-deux-tours pour se dire, ah oui, tiens, il avait dit ça, je veux une France plus vivante, une planète plus durable, mais on n'a pas les clés récentes, en fait, de la méthode.
Retour au standard, s'il vous plaît, voici Marc. Bonsoir Marc.
Bonsoir Fabien Sintès, bonsoir à vos invités et à tous. Je suis assez en colère contre La République En Marche, dont j'ai entendu le premier clip de campagne tout à l'heure à 14h50. En effet, il n'y a quasiment pas eu de débat lors de la présidentielle. C'est le président qui a refusé tout débat à cause, paraît-il, de la guerre en Ukraine pour laquelle il était mobilisé, nous a-t-on dit, à 100%. Il y a même des journalistes politiques, vous en avez un parmi vos invités, qui nous ont parlé d'Emmanuel Macron, chef de guerre. C'est une plaisanterie. Je ne savais pas qu'il était monté sur son commande-car d'opérette. Il a été réélu le 24 avril et pour moi, il devait être à Kiev le 25 ou le 26. Mmh.
Mais il n'y est pas, là. C'est sa ministre des Affaires étrangères qui y est. On va vers une question, Marc, ou pas?
Oui, tout à fait. Et au lieu de ça, il a passé 4 semaines à vérifier toutes les investitures de l'AREM et à composer le gouvernement. Tout cela au mépris de la Constitution, car le président est un arbitre et non pas un chef de parti. Donc voilà que dans son clip de campagne, l'AREM nous remet en introduction le soutien au président de la République dans la guerre en Ukraine. Moi, je trouve que c'est une supercherie. L'AREM n'a aucun programme sinon le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est l'affaiblissement de l'État et de la France. Mmh. Alors, il est temps que les démocrates de ce pays se réveillent, et si je peux me permettre, il est temps que les journalistes politiques de ce pays fassent leur métier d'informer et de poser des questions au lieu d'être les relais de la com' de l'Élysée.
Voilà, ne tapez pas sur le messager, Marc, soyez gentil, merci beaucoup en tout cas de votre intervention. Je vous voyez réagir, Sophie Dravinel, à ce que disait Marc. D'abord sur le chef de guerre, d'ailleurs, je vous voyais.
Oui, sur le chef de guerre, ouais. Évidemment. Je pensais à Richard Ferrand, dont on parlait, qui est peut-être celui qui a le plus vérifié le nom de tous les candidats, parce qu'il n'y a pas eu de commission d'investiture cette année. Et là aussi, enfin cette fois-ci, pardon, plutôt par comparaison à 2017. Et de fait, ça fait une grosse différence et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Et c'est vrai que chef de guerre, évidemment, chef de parti, un peu chef de tout. Et c'est pour ça que je réagissais, parce que Marc, vos critiques, nous les entendons. Je pense que nous sommes tous assez indépendants. Mais là où je vous rejoins, c'est sur le fait que y compris chez les marcheurs, ce sentiment qu'il n'y a pas eu de commission d'investiture, qu'il n'y a pas eu de discussion. Et par exemple, il y a un cas, moi, qui m'a frappé dans les Hauts-de-Seine, dans la circonscription de Jacques Maire, qui est remplacé par Prisca Thévenot, qui est porte-parole du parti.
Faites bien de le citer, parce que on est au stade où il faut faire attention quand on se met à citer les circonscriptions.
Absolument. Oui, pardon. Oui. Et du coup, j'étais effectivement assez surprise, et lui ne souhaite pas s'exprimer là-dessus. Il a été très sèchement écarté, et ça a fait un peu de bruit en interne, parce que c'est un député qui n'a pas du tout démérité, au contraire, je crois, enfin reconnu par ses pairs. Et ça, ce sont des cas qui marquent dans des formations politiques comme celle des marcheurs.
Est-ce qu'il y a eu Françoise Fressaud, justement, parce que c'est le deuxième, en fait, le deuxième quinquennat, et qu'on n'est plus ni dans la découverte, ni dans les primo-accédants, même à ce rôle de député, il y a aussi eu effectivement des flottements pour ces raisons-là, parce que c'est le deuxième coup, là, c'est plus pareil.
Alors moi, je voudrais juste pour répondre en disant deux choses. Premièrement, pendant toute la période, Emmanuel Macron a été président de l'Union européenne. Et donc, à ce titre-là, c'est normal qu'il ait été mobilisé sur les affaires ukrainiennes, parce qu'on lui aurait fortement reproché d'être complètement absent de ça.
Et deuxièmement, c'est jusqu'au 1er juillet, d'ailleurs.
Oui, deuxièmement, je ne connais pas un président de la République qui ne se soit pas investi de très près dans les investitures législatives. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand. Souvenez-vous de la scène où Ségolène Royal arrache son investiture à Mitterrand au cours d'une rencontre à l'Élysée. Ça, c'est
rien de nouveau.
Rien de nouveau. C'est-à-dire que qu'est-ce que cherche un président de la République élu? C'est d'avoir la majorité, et si possible la majorité absolue, pour pouvoir faire les réformes. Donc je pense pas qu'on puisse lui reprocher de faire la tambouille, et c'est tout à fait normal qu'il veuille essayer de composer sa majorité. Après, c'est aussi au parti de résister, et c'est peut-être
ça qui manque,
mais qui est typique du quinquennat, c'est que les chefs chef de parti était beaucoup plus fort et avait un pouvoir de négociation et de dire. Et là, effectivement, on a plutôt un parti qui est aux ordres du président de la République.
Et vous direz qu'il y a un manque d'élan quand même là-dessus, ou y compris de la part des marcheurs. Enfin, quand je vous entends, on est plutôt tenté de leur dire.
Les marcheurs, ils sont frustrés depuis avril parce qu'ils ont l'impression au fond que la campagne dépend d'un homme. Qui est Emmanuel Macron. Donc ça, c'est aussi lié au fait que la formation En Marche est un mouvement qui a été créé par le président de la République et pour le président de la République. Et l'un des enjeux du quinquennat, parce que notamment Emmanuel Macron ne pourra pas concourir à un troisième mandat, c'est est-ce que les marcheurs vont réussir à gagner leur autonomie et à devenir un parti un peu détaché du président de la République qui, au fond, prépare sa propre succession.
Qui ne s'appelle plus théoriquement,
mais non,
d'ailleurs...
On les appellera les Reborn, ou je ne sais pas quoi, les Renaissants.
Mais j'allais vous poser la question...
Puisque le nom va changer.
Le nom a changé.
Le nom va changer. Officiellement, il n'y a pas encore eu le bureau exécutif qui a formalisé le changement de La République En Marche en Renaissance.
Mais le changement de nom, quand on souhaite un changement de nom, c'est une chose. Maintenant, pour que ce soit... Pour que
incarné.
Ça rentre, que ce soit incarné, et que ça parle aux gens, c'est quand même une autre mayonnaise.
Oui, il va faire appel à un de ses très proches, Stéphane Séjourné, qui est aujourd'hui le président du groupe Renew au Parlement européen. C'est lui qui va être en charge de réfléchir un petit peu à cette nouvelle formation présidentielle, mais qui doit survivre à Emmanuel Macron. Mmh. C'est le macronisme après Macron, l'enjeu. Ça se joue dès maintenant dans les statuts qui doivent être définis. Comment on règle la sélection du successeur? Ça va venir très vite, en fait. Françoise disait 2 ans utiles de réforme, et après on rentre déjà dans la bataille de 2027. Donc qui on choisit? Comment? Avec quelle sélection? Et puis la question d'Edouard Philippe. On disait la majorité, comment va-t-elle? L'enjeu de ces législatives, pour Emmanuel Macron, c'est pas simplement de savoir s'il aura une majorité absolue, mais avec quelle force d'appoint ou pas pour l'atteindre. C'est-à-dire, est-ce que dans la future majorité qui s'appelle Ensemble et qui réunit les trois grandes forces, Édouard Philippe Horizon, François Bayrou le Modem et République En Marche qui devient Renaissance, est-ce que les députés philippistes seront charnières ou pas pour permettre cette majorité absolue? Et là, ça change beaucoup de choses pour la suite. C'est là la petite angoisse qui monte un petit peu dans
les
ce faux plat.
289 députés.
Mais voilà, 289, c'est la limite. Dans les fourchettes actuelles de projection des sondeurs, on n'est pas loin de cette limite, mais en faisant le plein. C'est-à-dire que vous additionnez Modem, Horizon et La République En Marche. Donc que se passe-t-il si Édouard Philippe, qui dans ses meetings en ce moment dit régulièrement qu'il sera libre mais loyal, loyal mais libre, et voudra donc ne pas être dans une majorité Godillot, que se passe-t-il si son groupe de députés est la charnière? Dans des moments compliqués, de réforme, où il faut voter comme un seul homme, que se passera-t-il?
On va écouter Mounir, et j'ai une question après Mounir d'ailleurs. Bonsoir Mounir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci pour vos émissions, avant tout, Madame Saintès. Ma question est la suivante. Nous sommes en période électorale, et avant chaque période électorale d'importance nationale, nous sommes abreuvés, inondés de sondages, tous plus farfelus les uns que les autres, et parfois relativement justes. Et je m'étonne donc de voir aussi peu de sondages sortir dans les principaux médias autour de ces législatives. Comment expliquez-vous ce phénomène?
Eh bien, on va essayer de répondre. Mounir, d'abord, est-ce qu'il y a moins de sondages réellement, Françoise, ou est-ce qu'on ne les voit pas de la même manière?
On peut difficilement sonder tant qu'on n'a pas le nom des candidats. Et on a quand même mis un temps assez important à constituer. Regardez la NUP, il y a eu d'abord le regroupement des forces de gauche, donc ça a duré quand même plusieurs semaines. Ensuite, il y a eu les investitures. Et donc là, les sondages ont commencé sérieux depuis à peu près une semaine. Et je pense qu'on va en avoir, mais ça sachant que c'est quand même aussi difficile d'avoir des projections et que les sondeurs sont plus prudents que pour la présidentielle.
Et est-ce que quel sens ça d'ailleurs des sondages législatifs? Enfin,
c'est très relatif.
Eh ben oui,
je parle sous le contrôle, mais de fait c'est très relatif. On a pour l'instant surtout, c'est d'autant plus relatif et peut-être incompréhensible pour une part, c'est que les sondages en pourcentage n'ont pas à voir avec les projections en sièges.
Et, oui.
Et ça c'est difficile à comprendre, c'est-à-dire que effectivement la NUP ou la NUPES est en tête. Souvent, à 25, 26, 27, parfois même 30. En fait, il y a trois blocs principaux, hein, le bloc de Marine Le Pen, le bloc d'Emmanuel Macron, celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas parce qu'ils sont en tête, loin de là, que ce n'est pas évidemment les marcheurs qui vont avoir le plus de voix. Le plus de voix, non, enfin le plus de sièges.
Parce qu'ils font le plein en premier tour,
absolument,
en étant unis.
Et la difficulté...
Mais la deuxième tour est une autre bataille.
Exactement.
Où sont les réserves après? Voilà, c'est la question.
Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre et à intégrer.
Mais si on dit qu'il y a une campagne un peu à tort, Hatton en ce moment, elle, Hatton, ça bénéficie à qui, en fait? Est-ce que ça bénéficie plutôt aux sortants, donc à cette espèce de mécanique et de mathématiques qui dit
ça
que le sortant a, ou est-ce que ça bénéficie
à l'électorat qui se mobilise le plus, à l'électorat qui se mobilise le plus, CSP+, plus de
les retraités, beaucoup
65 ans et plus, retraités. Donc ça, c'est l'électorat du premier tour d'Emmanuel Macron que l'on retrouve. Donc c'est la grande angoisse, je parle sous contrôle Sophie, à la NUP, c'est justement que les quartiers populaires ou l'électorat de gauche reste à la maison. Parce que c'est pas la même histoire après, en termes de mobilisation. Parce qu'on parle quand même d'une participation qui serait inférieure à un Français sur deux les 12 et 19 juin. Ouais. C'est-à-dire dans les mêmes étiages que 2017. Imaginez une abstention à plus de 50%.
On est à 52 là, si on en 52. Croit des projections. Mais enfin, bon.
Alors qu'on avait 75% de participation à la présidentielle. C'est pas la même histoire et ça crée des effets de bord énormes en termes de distorsion. On appelle ça l'abstention différentielle. C'est un peu technique, mais plus un camp s'abstient et plus l'autre en face, s'il se mobilise, rafle la mise.
Et les 12,5% des inscrits qui font que...
c'est assez énorme.
Exactement.
Et ça, c'est vrai que ça va jouer aussi, pardon... sur les dissidences. C'est-à-dire que du côté de la gauche, on a beaucoup de dissidences quand même. On a des dissidences socialistes, on a des dissidences écologistes, plus de 400 écologistes en dissidence, plus de 400. Alors évidemment, ce sont des micro-formations, comme celle de Jean-Marc Governatori, Corinne Lepage, qui vont pas forcément faire d'énormes scores, mais qui peuvent gréver. Vous parliez des 12,5% évidemment de participation, mais aussi l'accès au deuxième tour. Et c'est un petit peu l'angoisse de ceux de la NUPES, de proches de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire qu'ils sont très fort dans une partie du territoire, mais de façon beaucoup moins répartie que le parti majoritaire, et qui sont aussi évidemment beaucoup plus soutenus par des électeurs, un électorat plus âgé qui vote plus, qui est plus mobilisé. Et donc c'est vrai que là, ça donne quand même, même si on parlait des tensions chez l'AREM, de savoir s'ils allaient obtenir ou non les 289 ou si c'était limite, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'ils aient la majorité.
Mais est-ce que ça veut dire, Françoise Frédéric, sauf que pour l'instant, en tout cas, la NUP n'a pas réussi à dynamiser la campagne différemment en fait des campagnes précédentes. Au-delà effectivement du bruit médiatique que ça fait, est-ce que ça veut dire que ni dans les quartiers, ni effectivement,
c'est très contradictoire. C'est-à-dire que je pense que pour une partie de l'électorat de gauche, ça représente un espoir. C'est-à-dire que Mélenchon, avec ses 22%, en disant « je peux m'imposer Premier ministre et je suis pour un régime parlementaire et je continue à challenger Emmanuel Macron », ça plaît à l'électorat de gauche. Après, le problème pour lui, c'est qu'est-ce que vont faire les sociodémocrates, c'est-à-dire l'électorat de François Hollande, qui a quand même de quoi être choqué par le revirement d'une partie des troupes sur l'Europe, sur la laïcité, sur ça. Donc, il peut y avoir de la résistance de ce côté-là. Et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avec sa NUP peut aussi avoir pour effet de réveiller l'électorat de droite qui aura peur de lui et qui va voter Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment à double tranchant. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est si on a quand même ces abstentions aussi importantes, il y a quand même un énorme doute, un énorme problème sur quelle est la pertinence du régime parlementaire, pourquoi le Parlement n'attire pas davantage, est-ce qu'on n'est pas quand même au fond d'une crise démocratique qui va peser sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que au fond, une partie aura voté pour lui, mais une grande partie se sera abstenue en se disant « ça sert à rien ».
Oui, et je voulais rebondir sur ce que disait Françoise par rapport à Jean-Luc Mélenchon et à la NUP, c'est l'adversaire numéro un, maintenant clairement désigné par Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne, qui ce soir-là était en visio avec tous les candidats ensemble, donc de la majorité sortante. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Nous portons une radicalité différente de celle que porte Jean-Luc Mélenchon et son alliage hétéroclite à gauche, je la cite, la NUP, ce n'est pas le Front Populaire, c'est un front renversé. Voilà comment elle mobilise Elisabeth Borne, qui est elle-même en campagne dans le Calvados. Voilà comment elle mobilise les troupes d'ensemble pour les législatives, en faisant monter cet épouvantail, entre guillemets, pour elle, que serait Jean-Luc Mélenchon. Et c'était aussi l'angle d'attaque d'Emmanuel Macron lorsqu'il a mobilisé là aussi les candidats ensemble au Doc d'Aubervilliers le 10 mai. Il disait, voilà, vous choisissez, vous êtes le point de convergence utile. L'extrême droite, c'est l'exclusion. L'extrême gauche, c'est le communautarisme. Et nous, on est au milieu, on est universaliste.
Et Serge est avec nous. Bonsoir, Serge.
Bonsoir.
On vous écoute, Serge.
Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une petite remarque amusante. Si la Renaissance est de retour, il faut quand même se souvenir que c'est une expression, un mot qui a déjà été utilisé dans l'histoire de France. Et que ça laisse sous-entendre que le quinquennat précédent, c'était le Moyen-Âge. Enfin, ça, c'est une autre remarque. Si on se plaint autant des abstentions, c'est que les éditorialistes, journalistes, chroniqueurs, ne cessent de répéter à longueur d'antenne, et malheureusement aussi sur France Inter, je le regrette, que c'est déjà gagné pour Macron. C'est quand même inquiétant, parce que rien n'est gagné, mais tout le monde ne cesse de répéter, même vos invités ce soir, ont l'air de nous faire comprendre que finalement, c'est Macron qui a gagné.
Vous n'avez pas beaucoup de doutes.
Et Macron devrait quand même se souvenir d'une chose, s'en souvient-il, et je vous pose la question, qu'il a quand même été élu grâce à l'apport de 50% de voix de ce qu'on appelle aujourd'hui la NUPES. Mmh. Est-ce qu'il s'en souvient et est-ce qu'il s'en souviendra? J'ai des doutes.
Merci beaucoup pour votre question, pour votre remarque, Serge. Françoise Fresso, je vais ajouter la remarque de Frédéric sur franceinter.fr et qui dit quand la plupart des médias ne cessent de répéter que c'est plié, que les législatives confirment toujours la présidentielle, quelle motivation, demande-t-il, point d'interrogation.
Et c'est le cas depuis 1980, en fait, c'est juste une loi mathématique, c'est pas nous qui inventons. Oui. Et depuis l'inversion du calendrier 2002, c'est-à-dire présidentielle plus législative, à chaque fois, le président sortant se retrouve avec une majorité absolue. Après, l'histoire est faite de plein d'événements imprévus. Hein.
Oui, mais je pense que la montée de l'abstention, elle est plus profonde que les jeux sont déjà faits. Je pense qu'il y a un vrai désengagement, il y a un vrai désintérêt des Français, parce qu'ils ont l'impression que la vie politique change pas leur vie. Je pense qu'il y a encore l'effet confinement. Là, je vais vous citer le cas d'un ministre qui, il y a 3 jours, s'apprêtait à aller voir les électeurs. Et au fond, son colistier lui a dit, tu sais, je suis pas sûr que ce soit très opportun de les ennuyer. Là, ils ont envie d'être dans leur sphère privée, en profiter. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a un vrai désinvestissement, un retour sur soi-même, une sorte de désinvestissement collectif qui, à mon avis, qui est pas dû uniquement au fait que nous on dit les jeux sont faits, parce que au fond les jeux sont jamais faits, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond
qui se retrouve dans tous les partis, Françoise, selon vous, parce qu'on en a beaucoup parlé pour les extrêmes, on en a beaucoup parlé pour les classes populaires, pour l'électorat justement de la NUP, notamment de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, mais moins pour l'électorat d'Emmanuel Macron. Est-ce que quand même vous mettez aussi cet électorat là dans cette désespérance?
Disons que ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron a quand même été plutôt bien élu. Il y a eu un fort risque de passage à l'extrême droite et il a finalement été bien élu. Et ce qu'on constate, c'est qu'au fond, il n'a pas le comportement d'un vainqueur et ses troupes non plus. Donc ça montre un peu la difficulté, parce que je pense que le fait que le paysage politique soit maintenant en 3 morceaux, avec un parti central mais vraiment cerné par des extrêmes qui font monter le ton très haut, où la moindre chose devient vite polémique et assez violente, je pense que ça les tétanise d'une certaine façon et que ça rend très très compliqué la façon de gouverner le pays.
Oui. Sophie, allez-y. Oui, tout à fait, ça rend compliqué, et on le voit bien, cette espèce de volonté dont nous parlions tout à l'heure, de maîtriser chacun des... Alors, loin de moi, l'idée, effectivement, de dire que Emmanuel Macron puisse être, disons, le premier à vouloir maîtriser ses dossiers, etc. Mais c'est vrai que là, on sent particulièrement, et vous l'avez très bien dit, Françoise, par l'absence peut-être de répondants dans le parti, mais enfin, c'était quand même sidérant de voir qu'il a fallu que Richard Ferrand, à l'Assemblée, envoie un mail à tous les candidats LREM pour leur dire et leur rappeler et leur redire qu'il fallait mettre la figure d'Emmanuel Macron sur leurs affiches. Je veux dire, il y a quelque chose de particulier. Et là, on sent bien cette espèce de crispation sur ces 3 blocs. Et effectivement, comme vous le dites, une crise qu'on a vue au fil de ce quinquennat et qui a été, disons, un peu atténuée là par Jean-Luc Mélenchon à gauche, parce qu'une partie des gilets jaunes était dans cette ère-là, l'autre étant plutôt dans l'autre extrême. Ça s'est un petit peu calmé, parce que justement Jean-Luc Mélenchon a essayé de vouloir embarquer et d'embarquer dans un geste qui soit celui d'aller voter, et donc c'est la révolution dans les urnes, etc. Mais je partage tout à fait votre avis. Comme le dit très bien Serge, les résultats ne sont pas donnés. J'ai donné l'impression tout à l'heure, parce qu'on parle des sondages et que les sondages sont parfois quand même assez parlants, mais de fait il pourrait très bien y avoir cette rentrée sociale assez inattendue. Vous parliez du dossier des retraites qui était mis sous sous le boisseau. De fait, c'est le cas. Et donc là, on ne sait pas ce qu'il y a en face de nous. Et je pense que l'exécutif en est très très clairement conscient.
Romain, il nous reste 3 minutes. Je vous en donne un tiers. Allez-y, soyez le bienvenu.
Bonjour. C'est pour savoir comment on peut inverser le calendrier pour donner du poids aux législatives, aux partis justement, et pour éviter ce goulot d'étranglement des présidentielles qui tranche la vie politique et du coup qui annule l'intérêt des législatives un peu plus d'un mois après. Mmh. Où déjà, il y a beaucoup d'abstention. Alors donner 2 élections majeures nationales sur un mois et demi, ça me paraît improbable, impossible, surtout que depuis que là cette année c'est inédit, on a été le président sortant a été réélu. Mmh. Et c'est tout nouveau quoi pour un quinquennat.
C'est la grande réflexion qui va s'ouvrir. Emmanuel Macron a promis d'ouvrir un grand chantier institutionnel avec des constitutionnalistes, des hommes politiques, des femmes politiques qui doivent réfléchir à l'avenir de la Ve République. Ça, c'est une des questions qui est posée. Est-ce qu'il faut synchroniser ou non la date des élections présidentielles et législatives?
Ou alors vraiment, si quitte à synchroniser, autant synchroniser vraiment.
C'est-à-dire le même jour, vous votez pour votre député et pour le président. Et c'est pas forcément la même couleur, ça peut donner une composition différente. Et puis, revenons non pas à la Renaissance ni au Moyen-Âge, mais à 2000, c'est la réforme du quinquennat, votée par référendum, par les Français. Et à ce moment-là, se met en place cette inversion du calendrier, législative qui suivent les présidentielles. Tout le monde était d'accord, Jacques Chirac comme Lionel Jospin, avec cette réforme. On en voit aujourd'hui, 20 ans après, les effets et l'hyper-présidentialisation dans un mandat raccourci.
Sachant aussi que la réforme institutionnelle, l'idée de revoir les institutions, etc., tout ça est sur le tapis depuis tellement longtemps. On dit à chaque fois, on l'a dit, et Françoise, vous étiez là.
Mais il faut changer la constitution, et c'est compliqué.
Mais je pense que tous ces sujets sont toujours sur le tapis, puis qu'on oublie d'en parler
au démarrage. Mais là, je pense que cette fois-ci, ça va. Il y a eu quand même une discussion entre Gérard Larcher, le président du Sénat, et Emmanuel Macron, parce que Gérard Larcher avait bloqué la précédente réforme. Et là, je pense que d'un commun accord, ils vont avancer là-dessus. De même qu'il y a toute une réflexion d'Emmanuel Macron sur une méthode d'association des Français, parce que je pense qu'ils sont quand même tous conscients que si on continue comme ça, c'est-à-dire avec un tel retrait démocratique des Français, une telle propension de l'opinion à juger que tout ce qui est fait c'est négatif, on va vraiment au casse-pipe. Et donc l'enjeu de ce quinquennat, c'est essayer de remettre dans le jeu les Français, revivifier la démocratie parlementaire, mettant peut-être de la proportionnelle, inventer des nouvelles mode de concertation. Et si on échoue cette fois-ci, je pense que ça peut être très grave.
Et le faire tout de suite, j'allais dire dans les 100 jours, en fait, dans la première année. Sinon, c'est trop tard. Sinon, c'est fini, non?
En tout cas, c'est embarqué. Là, on va voir ce qu'il va pouvoir faire. Certains parlent effectivement d'une dose de proportionnelle importante. C'est clair qu'il n'y aura sans doute pas de troisième mandat et qu'il a là l'occasion de marquer dans l'histoire autrement que par la crise du Covid, les gilets jaunes. Et donc, d'imprimer sa marque, c'est aussi très important évidemment pour lui.
Et il y a un ministère pour ça maintenant, c'est nouveau, c'est celui des relations avec le Parlement qui inclut aussi la refondation démocratique. Et c'est Olivier Véran qui en sera en charge.
En attendant, il y a un premier tour des élections législatives. C'est dans une douzaine de jours maintenant, enfin dimanche prochain dans 15 jours, disons les choses. Voilà.
2 semaines.
Dans 2 semaines, exactement, très exactement. Ça nous donnera l'occasion d'y revenir aussi. Je vous remercie tous les trois et vous tous pour vos nombreuses questions.